Bonjour à toutes et à tous, David Poget de l'Écho des Planches en direct du Festival d'Avignon. Je suis actuellement en compagnie de Pascal Mangin, conseiller régional de la région Grand Est, président de la commission culture et président de l'agence culturelle d'Alsace. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Donc dans cette interview, nous allons parler de la politique culturelle de la région Grand Est et de sa participation au Festival OFF d'Avignon 2017. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots votre rôle en tant qu'élu et en tant que président de la commission culture?
Écoutez, mon rôle, ça consiste à m'occuper de la culture. En fait, pour le dire autrement, je crois que la région Grand Est, elle est caractérisée aujourd'hui par une chose qui est très importante, c'est le fait qu'elle est le résultat de la fusion de trois territoires différents, la Lorraine, la Champagne-Ardenne et l'Alsace. Et de ce fait-là, mon rôle consiste à organiser une politique culturelle à cette échelle de ce nouveau territoire. Et en même temps, je crois que comme ici, comme ailleurs, comme dans n'importe quelle collectivité, le rôle d'un élu à la culture, ça consiste à être pas simplement l'ambassadeur des acteurs culturels, mais ça consiste, je crois, à permettre aux acteurs culturels, aux structures, aux lieux de jouer leur mission, c'est-à-dire pour les acteurs de créer, pour les lieux de diffusion de diffuser, et de faire en sorte que tous ces gens se trouvent le mieux possible sur le territoire sur lequel ils ont choisi de travailler et de créer.
Et donc justement, comme vous l'avez dit, la région Grand Est est relativement récente, elle est née il y a 19 mois, de la fusion des anciennes régions d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Quels enseignements tirez-vous et quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés quand vous mettez en place ces stratégies de politique culturelle?
Alors, en fait, je vais pas revenir sur l'histoire qui a conduit à cette fusion, mais rappelons que c'est une loi qui a décidé de cette fusion. Rappelons que c'est également des territoires qui n'ont pas été choisis. C'est pas on peut parler en l'espèce, pour nous comme pour d'autres territoires, de mariage forcé. Cela dit, le principe d'un élu, c'est quand même de respecter les lois de son pays et de les appliquer dès lors qu'elles sont en vigueur. Et donc, nous avons aujourd'hui essayé de construire, de tenter de voir ce que l'on pouvait faire à cette échelle, que ce soit sur la culture comme sur l'ensemble des compétences régionales. C'est un peu tôt pour en tirer un bilan, mais on peut en tirer quelques principes d'action. D'abord, c'est un territoire qui est très grand, qui est marqué par la ruralité, donc par une très grande diversité en fait entre des pôles urbains et des pôles ruraux. C'est un territoire qui est marqué également par un caractère transfrontalier. Nous sommes la seule région à avoir une frontière avec quatre pays, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Confédération helvétique. Donc c'est à la fois fragilité et force, si je peux le dire ainsi. Et puis évidemment, pour revenir sur le plan de la culture, je pense que les politiques culturelles étaient un peu différentes d'un territoire à l'autre. Il y a eu évidemment beaucoup de, sinon d'angoisse, au moins d'appréhension, parce que évidemment chacun avait des habitudes sur son territoire, savait un peu quels étaient ses dispositifs, les bons et les mauvais côtés de chacune des politiques qui étaient menées, et se demandait bien ce qui allait être fait à cette grande échelle. Alors, nous avons fait deux choses, et je reviendrai sur ce que je peux en retirer. Nous avons d'abord choisi d'avoir une politique culturelle à cette échelle-là le plus rapidement possible, et c'est le cas depuis juin de cette année. C'est-à-dire, en clair, nous ne traitons plus les Lorrains sur la base des dispositifs Lorrains, les Champenois, les Champardonnais sur la base des dispositifs Champardonnais, etc. Nous avons aujourd'hui des dispositifs pour la création, pour la diffusion, pour l'émergence, si je prends que le spectacle vivant, qui sont applicables partout de la même manière. Mais nous les avons construits en accord avec les acteurs culturels, puisque c'est un des premiers actes que nous avons fait. Nous avons créé un conseil consultatif de la culture pour lequel nous avons mis en place un certain nombre de collèges, le spectacle vivant, le numérique, la musique, j'en passe. Chacun de ces collèges a travaillé en fait sur les dispositifs qui allaient s'appliquer à l'échelle du territoire régional. Et je peux le dire, c'est une forme de fierté, en tout cas c'est le respect d'un engagement. Aucun des dispositifs qui a été adopté n'a pas été validé par le Conseil consultatif de la culture. En clair, ce sont les derniers papiers qui étaient devant cet organe qui était consultatif qui ont été ceux qui ont été votés par l'ensemble de l'Assemblée régionale. Ce qui fait que il y a un degré d'acceptation et j'allais dire de connaissance de la politique culturelle qui est extrêmement puissant. Et puis, j'ai bien conscience là d'être un peu long, mais je voudrais terminer sur le sentiment qui se dégage de tout ça, c'est finalement que ce territoire qui n'était pas voulu est, du point de vue de la culture, un territoire pour lequel la construction et l'acceptation, là aussi, est assez rapide. Et ça a vraiment, il me semble, permis à chacun, obligé, chacun à sortir un petit peu de sa zone de confiance, mais également de se réinterroger sur ce qu'il faisait, sur comment il le faisait, etc. Et de ce point de vue-là, je peux dire que le bilan n'est pas totalement négatif, il est peut-être même un peu positif.
Et donc, pour la deuxième année consécutive, la région Grand Est soutient 14 compagnies indépendantes qui se produisent au Festival OFF d'Avignon. Quelle est la nature, la philosophie de ce dispositif ?
Alors, la région Grand Est soutient évidemment depuis la deuxième année des compagnies qui sont à Avignon, parce que c'est la deuxième année qu'elle existe. Hein. Il y avait en réalité un système de soutien pour les compagnies dans le OFF, en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne, mais surtout la région Grand Est, elle a eu un énorme avantage, je dois le dire, c'est que dans la corbeille de la Mariée, il y avait la caserne, qui était un lieu qui avait été créé par des compagnies aussi voulues par Bernard Stasi, qui a été le premier président de la région Champagne-Ardenne. Et évidemment, quand on a des trésors, en tout cas de telles dotes dans cette fusion, il n'était pas question de s'interroger sur est-ce qu'il est pertinent ou pas de garder la caserne, d'autant que par exemple moi qui viens du territoire alsacien, qui suis à ce titre alsacien, nous étions interrogés longtemps sur la nécessité d'avoir un lieu ou pas à Avignon, et chacun sait combien la création d'un lieu dans le OFF est un exercice difficile, surtout quand il est marqué du sceau régional et pas du sceau d'une esthétique. Donc notre dispositif aujourd'hui, il est finalement assez classique. Il est un dispositif sélectif, les compagnies qui sont là ont été sélectionnées. Il s'appuie à la fois sur un lieu permanent, enfin sur un lieu permanent pendant le OFF, la caserne, mais aussi sur la possibilité des compagnies qui souhaitent aller à l'extérieur de la caserne, soit parce qu'elles ont pour des questions d'esthétique, de dispositifs scéniques, de pratique. Hein, je pense à la compagnie circassienne qui est sur l'île Opio, besoin d'aller ailleurs. Et donc nous les aidons. J'allais dire assez matériellement quand ils sont à la caserne, quand on leur offre le gîte et le couvert, leur donnons un petit peu plus de moyens financiers lorsqu'ils vont à l'extérieur, mais surtout le point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous avons articulé ce dispositif avec les villes, c'est-à-dire que pour les principales villes de la région, Metz, Mulhouse, Strasbourg, Reims, les compagnies qui sont là, qui viennent de ces villes-là, les villes ont accepté également de mettre un petit peu d'argent, ce qui est un énorme avantage. D'abord, ça permet aux villes de montrer l'attention qu'elles ont également pour les compagnies lorsqu'elles sont à Avignon. Et puis pour la région, ça permet de consacrer aussi un petit peu plus d'attention à des compagnies qui sont au milieu rural, parce que évidemment, si on a une sélection qui est resserrée, puisqu'on est sur un dispositif sélectif, et donc la sélection, elle tient également compte de la qualité, mais aussi du volume financier, le risque était grand d'avoir des compagnies qui soient que dans les villes. Et donc ce partage entre à la fois pas du fardeau, mais d'une forme de responsabilité financière vis-à-vis des compagnies entre les villes et la région, permet quand même que, par exemple, nous avons ici une compagnie qui vient de Commercy ou une autre qui vient de Rethel, qui sont, même si Rethel n'est pas un endroit très ultra rural, et quand même dans les Ardennes, un endroit un peu compliqué, et Commercy est vraiment une ville de moyenne de la Haute-Marne, de la Meuse, pardon, dans lequel évidemment la ville n'aurait pas pu mettre engager de moyens financiers pour que sa compagnie soit présente ici au OFF à Avignon. Donc voilà un peu la philosophie de notre dispositif, s'articuler autour d'un lieu, permettre à tous ceux, et dont les experts jugent qu'ils ont la capacité d'être à Avignon, de venir, en lien avec les plus grandes villes du territoire.
Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur la sélection des compagnies. Cette année, dans le Festival OFF d'Avignon, on a 1480 spectacles. Quelle est votre stratégie pour être visible au milieu de cette jungle du festival, j'ai envie de dire?
Moi, j'ai pas vraiment de stratégie. Hein. J'ai d'abord un questionnement chaque année, en fait. Enfin, c'est est-ce qu'il faut y aller ou pas? Bon, évidemment, la réponse est un peu instantanément oui, mais si vous voulez, lorsque je discute avec de nombreux acteurs du spectacle vivant, j'ai quand même toujours un moment où j'explique que on peut vouloir des règles un peu plus équitables pour notre société, un peu plus protectrices des plus faibles, etc. Mais enfin, que quand même, il faudrait peut-être commencer par le OFF d'Avignon. Je dis ça en plaisantant à moitié, parce que c'est quand même l'endroit pour moi où une forme de libéralisme sauvage sévit avec la la violence la plus absolue. C'est-à-dire que, outre la question de la programmation sur laquelle il n'y a absolument aucune sélection et chacun peut s'y mettre, etc., la location des lieux, dont certains, on peut se demander si ils ont encore la forme d'une salle dans laquelle on va voir un spectacle, leur coût, le logement pour les artistes et ceux qui les accompagnent, et puis ensuite cette espèce de foire d'empoigne, des affiches, du tractage, du comment je fais venir des gens à mon spectacle, etc. Bref, c'est vraiment du libéralisme sauvage. C'est-à-dire, en clair, il n'y a aucune règle et il n'y a surtout aucun moyen de protéger ceux qui sont les plus petits par rapport aux plus grands pour leur laisser une chance. Donc, qu'est-ce que nous faisons face à ça ? Deux choses. La première, c'est la sélection des compagnies. Je pense que les experts qui sélectionnent les compagnies sont vigilants sur le fait qu'elles prennent quand même pas trop de risques, à la fois sur le spectacle qu'elles présentent, une création, enfin voilà, avoir une certaine expérience. Enfin, et puis ensuite, bon, toutes ne sont pas venues à Avignon, parce que sinon, si on donne la chance qu'à celles qui sont déjà venues, évidemment, c'est toujours le même principe. Ceux qui voudraient venir n'y viendront jamais. Donc, avec l'agence culturelle, nous avons une forme de coaching pour les compagnies qui permet deux choses, qui permet en fait que toutes les compagnies se rencontrent, et donc il y a un échange de pair à pair, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà eu une expérience peuvent transmettre des trucs, si je puis le dire ainsi, à ceux qui n'y sont pas allés, et puis on peut aussi expliquer les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire pendant et ce qu'il faut faire après, qui n'est pas moins important, même si on est très fatigué. Voilà un peu ce que nous essayons de faire. Nous mettons à disposition des outils de communication des compagnies. Et puis aujourd'hui, je pense que la caserne est de ce point de vue-là une grande chance, parce que j'ai souhaité un peu aujourd'hui, cette année, réaménager le lieu, parce que pour moi, ça doit être un lieu repère, un lieu phare du Grand Est à Avignon, pas simplement pour que en termes de diffusion, mais aussi pour que chacun puisse venir là, prendre un café, boire un verre, etc., rencontrer d'autres gens, parce que je sais très bien que quand on fait un exercice comme ça pendant un mois, il y a des moments où on est extrêmement euphorique, il y a des moments où on l'est un peu moins, et il y a des moments où on l'est encore un peu moins que moins. Donc je crois que le fait que les uns et les autres puissent se retrouver, se parler, etc., doit aussi créer une ambiance et aussi évidemment permettre à ceux pour lesquels l'expérience peut être un peu difficile, peut-être d'être remotivés un petit peu, de retrouver un peu plus de retrouver de l'énergie pour continuer en fait, ce qui ressemble quand même assez lourdement à une épreuve.
Alors maintenant, j'aimerais vous faire réagir à l'édito d'Olivier Py pour le Festival d'Avignon. Donc Olivier Py qui écrit dans son édito intitulé « Nuages, merveilleux nuages ». Les œuvres d'art disent la vérité, et quand nous avons soif de vérité, quand il nous semble que toutes les perspectives politiques sont devenues trop outrageusement réalistes pour être honnêtes, les œuvres d'art deviennent la seule vérité qui ne nous accable pas. Qu'est-ce que cela vous inspire sur éventuellement un blocage du système politique et la nécessité de la culture pour dépasser ce blocage ?
Je sais qu'Olivier Py a toujours un regard sur la politique extrêmement attentif et vigilant. Moi, je me méfie toujours des excès. Hein. Je voudrais pas dire qu'il y a un peu d'excès dans cette phrase, mais enfin, on en est tout de même pas loin. Non, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, ce que nous évoquions avant la question du territoire régional, si on évoque un instant la question de la politique nationale, à la fois le territoire régional pour nous et pour d'autres régions a changé, et évidemment aujourd'hui. Nous avons un nouveau président de la République avec une nouvelle ministre de la Culture. Je dois dire que il correspond pas à ma sensibilité politique, mais forcément, j'ai évidemment regardé qui était ministre de la Culture. Je ne peux que me satisfaire. Alors même si je pense pas qu'un ministre de la Culture fasse la culture, etc., il faut toujours se méfier de cette idée, évidemment. Je pense que c'est extrêmement, il y a une forme de, j'irai pas jusqu'au mot espoir, mais en tout cas, le choix me paraît un choix judicieux. Nous avons une femme qui vient de la province, comme on dit à Paris, qui n'est pas une parisienne. De ce point de vue-là, pour le provincial que je suis aussi, c'est une forme d'espoir, à considérer que quelqu'un va enfin avoir peut-être un regard avec un peu plus d'acuité sur ce qui se passe culturellement dans les régions, dans les territoires, dans les villes, en dehors de Paris. C'est quelqu'un qui a un regard sur l'économie culturelle extrêmement affûté compte tenu de ses fonctions, pas d'ailleurs que sur le livre, puisqu'elle a également des lieux de diffusion, enfin des salles de cinéma. Donc voilà, de ce point de vue-là, moi, je dois dire que c'est absolument parfait. Après, il faut agir. Je m'estime pas la difficulté de l'action dans un gouvernement, les questions de transversalité, etc. Ça, c'est pour le niveau national. Et évidemment que la culture est un sujet important, mais je crois que les acteurs culturels sont forcément de nature inquiète, mais lorsqu'on regarde le choix de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, le choix dans le Grand Est d'augmenter massivement ou dans le Grand Est l'augmentons aussi peut-être avec moins de force encore que Xavier Bertrand, mais enfin en tout cas on viendra aussi sur une augmentation assez considérable du budget de la culture. Je pense qu'on peut observer quand même que ici comme ailleurs, peut-être à part aux extrêmes, chacun a compris que la culture était à la fois une obligation, une opportunité et une ressource pour son territoire. Et donc l'idée que lorsqu'on a un peu de difficulté, on tape systématiquement sur le budget culture est peut-être, en tout cas, enfin j'espère pour un temps, une idée simple qui s'éloigne et qui montre que finalement chacun comprend qu'il y a dans la culture une forme de pas simplement de nécessité, mais une forme d'obligation, quoi.
Alors sur cette distinction entre politique culturelle à l'échelle locale et à l'échelle nationale, aujourd'hui vous avez intégré que la culture dépend de plus en plus des collectivités territoriales. Cependant, on sait qu'elle ne peut pas exister sans une politique culturelle à l'échelle nationale. Françoise Nyssen, qui était en visite en Avignon du 6 au 8 juillet, n'a pas confirmé la sanctuarisation du budget de la culture, ce qui a suscité de vives inquiétudes. Vous, en tant qu'élu local, quelle distinction faites-vous entre une politique culturelle à l'échelle locale et à l'échelle nationale ?
Alors, moi, sur ce sujet, qui est un sujet assez récurrent, je dis deux choses. La première, il faut quand même s'interroger sur l'idée que Mme Nyssen vienne d'Arles et que ça soit de ce point de vue-là vraiment une chance pour nous, les territoires. Il faut s'interroger sur le fait que, je sais plus quel est le chiffre, mais 60 ou 70% du budget de la culture reste à Paris, quoi. Et il y a de ce point de vue-là vraiment une injustice. Alors je sais que l'année dernière, pas très loin d'ici à Aix, j'avais eu une discussion un peu vive, comme on dit, avec le président de la commission culture à l'Assemblée nationale, qui me disait que c'était vraiment un regard d'un autre temps, etc. Moi, je ne crois pas que ce soit un regard d'un autre temps. C'est une réalité, et dans la mesure où c'est une réalité, elle existe toujours aujourd'hui. C'est la première chose. Je ne dis pas qu'il faut un rééquilibrage complet, mais je dis qu'il faut quand même un regard. Je n'irai pas jusqu'aux formes jusqu'au mot bienveillance, mais je sais que c'est un mot qui plaît beaucoup à notre actuel président de la République, mais sur ce qui se passe ailleurs qu'à Paris. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que l'État, et l'État territorial en particulier, cesse de considérer qu'en mettant quelque argent pour s'asseoir autour de la table, il peut commander tout ce qui se fait. Hein, en clair, cette politique de label, qui est à la fois, je trouve, un peu insidieuse, parce que finalement, un principe assez simple, qui paie décide, c'est-à-dire que il s'agit pas de décider d'ailleurs sur les sujets de programmation artistique, etc. Mais si je prends par exemple la création d'un lieu, on voit aujourd'hui par exemple dans le milieu rural émerger un certain nombre de lieux qui sont, comme on dirait en ville, des tiers-lieux, mais dans lequel il y a une médiathèque, une petite médiathèque, un lieu de diffusion, peut-être un peu de cinéma, etc. Bon, l'État ne peut pas financer parce que ça correspond pas à tel ou tel label, etc. Ce qui compte, c'est que est-ce que ça correspond à une réalité qui est celle d'une réalité territoriale où une interco finalement se prend en main pour avoir quelque chose. Donc, c'est plus dans là-dessus, après tout, que l'État n'est plus d'argent. Nous le savons depuis longtemps, et c'est pas du tout une nouveauté. Mais il faudrait pas qu'il compense son impécuniosité par d'une part le renforcement de sa politique et de sa présence à Paris pour avoir un effet, j'allais dire, un peu vitrine, et d'autre part qu'il se raidisse à la fois dans son expertise que je respecte, mais qu'il se raidisse trop fortement en contrôlant, les structures, les projets sur le territoire à travers cette politique de labellisation, au risque finalement d'asphyxier les idées, la générosité et puis la créativité des acteurs culturels, créativité qui doit se déployer évidemment sur leur sujet artistique propre, mais qui peut se déployer aussi sur la manière de diffuser, d'organiser, etc. La politique culturelle sur leur territoire. C'est donc j'ai pas de conseils à donner à l'État, mais c'est en tout cas les deux marques et les deux points d'attention que je lui fixerai, quoi.
Et dans quelle mesure dépendez-vous de la politique culturelle nationale ? Je veux dire par là, vous voulez dire que l'État doit donner l'exemple en matière de politique culturelle ? Est-ce que, selon ses décisions, notamment en refusant de sanctuariser le budget de la culture, cela peut envoyer un mauvais signal pour les collectivités territoriales ?
Non, je ne crois pas. Je crois que sur cette question strictement budgétaire, les collectivités territoriales ont peu à faire de ce que l'État fera ou pas sur la sanctuarisation ou non du budget de la culture. Ce qui est en revanche plus sensible, c'est la question de la manière dont l'État va ou non réduire le budget des collectivités territoriales, les transferts financiers aux collectivités territoriales. Et je ne veux pas faire de vilaine politique nationale, mais je note que si on supprime par exemple la taxe d'habitation, ce qui serait une très bonne nouvelle parce que c'est un impôt injuste aux communes, et même si on le remplace par un transfert de l'État vers les communes, ça sera une forme de recentralisation extrêmement forte qui privera en fait les communes, qui sont des acteurs quand même des acteurs importants de la culture, donc les villes, les villages, etc. Ça les privera d'une ressource extrêmement importante et de cette initiative qu'elles pouvaient avoir, et c'est une forme de recentralisation. Je ferme la parenthèse pour dire que moi j'attends pas que l'État nous donne des exemples. J'attends qu'ils soient exemplaires, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et même si en quoi je dépend de l'État, puisque c'était votre question, je dépends pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de politiques qui sont des politiques partenariales. Les fonds régionaux d'art contemporain, politique sur le livre. Mais par exemple, lorsque je regarde ces politiques-là, ça se passe plutôt bien. Nous venons de faire un recrutement pour nos 3 fonds régionaux d'art contemporain qui s'est très bien passé. Je pourrais dire par exemple que sur le livre, les choses sont un petit peu différentes. Mais c'est quoi une politique partenariale? C'est quoi être exemplaire? Ça veut dire qu'il faut que l'État respecte les collectivités territoriales. Nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes plus des citoyens, des majeurs incapables. Nous avons nous-mêmes aujourd'hui, sur un territoire comme le nôtre, des services avec une expertise, une capacité, une compétence pour développer une politique. Et donc, lorsque je m'assois à table avec l'État, j'attends pas d'être assis sur le siège bébé et l'État à la table normalement, j'attends que nous ayons tous les deux une place qui soit la même, et c'est ça vraiment, au-delà des questions financières, au-delà de ce que je peux attendre, c'est ça vraiment que j'attends comme type de comportement de la part de l'État.
Donc nous arrivons quasiment au bout de cette interview. J'ai une dernière question pour vous, Pascal Mangin. Vous qui êtes un homme de culture, quels sont vos goûts personnels, vos envies en matière de culture, et quelle place occupe la culture dans votre vie ?
Alors, mes goûts personnels, finalement, je suis pas un homme de culture. J'étais pas du tout destiné à m'occuper de la culture. Je suis un urbain, plutôt européen, ouvert sur ce qui se passe en Europe, etc. Je suis de formation, je suis un juriste, donc je suis pas du tout. Donc, l'énorme chance que j'ai eue, c'est évidemment de pouvoir d'avoir aujourd'hui à ma disposition un éclectisme en termes de spectacles, d'expositions, de concerts, enfin le plus absolu possible. Et donc finalement d'avoir continué à pratiquer, à aller au spectacle, etc., et de découvrir plein de choses. Donc, comme me disait mon maître à penser, Robert Grossman, qui fut l'adjoint à la culture de Strasbourg et le président de la commission culture de la région Alsace, tu ne dis jamais si tu as aimé ou pas, parce que ça ne se fait pas. En revanche, j'ai vraiment, je crois, mon seul goût, si je puis le dire ainsi, c'est vraiment d'avoir la chance de pouvoir absolument tout voir et de manquer un petit peu de temps pour cela, mais d'avoir cela à disposition. Et je crois qu'il y a tant de gens qui voudraient, qui parfois n'ont pas les moyens ou pas le temps aussi. Enfin bref, en tout cas, j'ai cette chance-là. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Moi, je crois que ça m'a apporté la conviction que finalement, il y a, comment dire, pour essayer de faire quelque chose d'un peu balancé, il y a chez les acteurs culturels la nécessité aussi, comme ce qui vient de se passer chez les élus, pour les élus, pour la politique, etc., la nécessité d'une réforme assez profonde. Je veux pas, moi, dire que tout est formidable, tout est fantastique, etc. Je pense qu'il y a une forme de conservatisme de la part d'un certain nombre d'acteurs culturels qui, aujourd'hui, peut les mettre en danger. Parce que le fait de regarder le rapport entre collectivité territoriale, État, territoire, aujourd'hui comme il était il y a 20 ou 30 ans est une erreur qui peut vraiment pas simplement créer des tensions et des désaccords entre eux et moi par exemple, etc., mais c'est quelque chose qui fait que ça peut les mettre en difficulté, parce que à la fois non pas simplement parce que le monde change, mais la manière dont les uns et les autres fonctionnent peut changer. Donc j'invite quand même là-dessus à une vraie attention. Mais après, pour terminer sur une note positive, ce que la culture m'a apporté à moi en tant qu'élu et pas simplement en tant que personne, c'est vraiment de comprendre à quel point, sur un objet qui est en général pas tellement regardé par les autres élus, voilà, personne qui s'occupe de l'économie, encore que les choses soient très différentes aujourd'hui, ou je sais pas quoi, moi, du budget, etc., a quelquefois un regard non pas défiant, mais un petit peu condescendant sur le sujet de la culture, eh bien moi, ça m'a donné finalement l'envie de porter cette idée qu'une partie de la réponse à des tas de problèmes que l'on se pose ailleurs, dans le champ de l'éducation, dans le champ de la formation, mais aussi dans le champ de l'économie, etc., pouvait exister, venir ou des acteurs culturels, ou être mis en pratique, ou en tout cas être questionné à la fois dans la création, ou être abordé, que l'on pense par exemple, je sais pas moi, en termes de formation, on peut par exemple proposer à des gens de monter une exposition, il y a presque toutes les solutions existent là, à la fois qu'elles soient développées de manière artistique, soit que les acteurs culturels qui font face à une forme de précarité quand même extrêmement puissante les aient trouvées, parce que ils devaient faire face à cette précarité, à cette fragilité. Bref, je ne veux pas dire que tout est dans la culture, mais ça m'a donné vraiment l'énergie, la dynamique de poser la culture au sein de ma collectivité, non pas comme un sujet essentiel, mais en tout cas comme un sujet beaucoup plus central qui pouvait l'être. Et je pense que, pas une fierté, mais lorsque le président de la région se retourne vers moi et dit « je suis obligé de dire que ce que Pascal Mangin dirait là en disant que la culture est aussi une réponse à un certain nombre de sujets », je crois que j'ai fait à peu près le travail qui devait être le mien.
Merci à vous, Pascal Mangin, et bon festival.
Merci à vous, merci.
C'était David Poget pour L'Écho des Planches.